Chapitre 9, les parlements, où il est démontré que le chemin du ministère n'est pas semé de roses. Tandis que toutes ces intrigues subalternes, couvées et écloses sous les tilleuls et dans les fleurs de Trianon, composaient une existence animée au ciron de ce petit monde, les grandes intrigues de la ville, tempêtes menaçantes, ouvraient leurs vastes ailes au-dessus du palais de Thémis, comme l'écrivait mythologiquement M. Jean du Barry à sa sœur. Les parlements, restes dégénérés de l'ancienne opposition française, avaient repris haleine sous la main capricieuse de Louis XV. Mais depuis que leur protecteur, M. de Choiseul, était tombé, ils sentaient le danger s'approcher d'eux et s'apprêtaient à le conjurer par des mesures aussi énergiques que la circonstance le permettait. Toute grande commotion générale s'embrase par une question personnelle, comme les grandes batailles de corps armés débutent par des engagements de tirailleurs isolés. Depuis que M. de la Chalotais, prenant au corps M. d'Huillon, avait personnifié la lutte du tiers contre la féodalité, l'esprit public s'en tenait là et ne souffrait pas que la question fût déplacée. Or, le roi, que le Parlement de Bretagne et ceux de la France entière avaient noyé sous un déluge de représentations plus ou moins soumises et filiales, le roi venait, grâce à Madame du Barry, de donner raison contre le tiers-parti à la féodalité en nommant M. d'Aiguillon au commandement de ses chevaux légers. M. Jean du Barry l'avait formulé avec exactitude, c'était un rude soufflet sur la joue des amés et féaux conseillers tenant cours de Parlement. Comment ce soufflet serait-il accepté? Telle était la question que la cour et la ville se posaient chaque matin au lever du soleil. Les gens du Parlement sont d'habiles gens, et là où beaucoup d'autres sont embarrassés, ils voient clair. Ils commencèrent par bien s'entendre entre eux sur l'application et le résultat du soufflet. Après quoi, ils prirent la détermination suivante lorsqu'il fut bien arrêté que le soufflet avait été donné et reçu. La cour du Parlement délibérera sur la conduite de l'ex-gouverneur de Bretagne et donnera son avis. Mais le roi para le coup en intimant au père et au prince la défense de se rendre au palais pour assister à quelque délibération que ce fût touchant M. d'Aiguillon. Ceux-ci obéirent à la lettre. Alors le Parlement, résolu de faire sa besogne lui-même, rendit un arrêt dans lequel, déclarant que le duc d'Aiguillon était gravement inculpé et prévenu de soupçons, même de faits qui entachaient son honneur, ce père était suspendu des fonctions de la pairie jusqu'à ce que, par un jugement rendu en la cour des pairs dans les formes et avec les solennités prescrites par les lois et ordonnances du royaume, que rien ne peut suppléer, il se fût pleinement purgé des accusations et soupçons entachant son honneur. Mais ce n'était rien qu'un pareil arrêt rendu en cour de parlement devant les intéressés et inscrit au registre. Il fallait la publicité, la notoriété publique. Il fallait ce scandale que jamais chanson ne craint de soulever en France, ce qui rend la chanson souveraine dominatrice des événements et des hommes. Il fallait élever cet arrêt du Parlement à la puissance de la chanson. Paris ne demandait pas mieux que de s'intéresser au scandale, peu disposé pour la cour, peu pour le Parlement. Ce Paris, en ébullition perpétuelle, attendait quelques bons sujets de rire comme transition à tous ces sujets de larmes qu'on lui fournissait depuis 100 ans. L'arrêt donc était bien et dûment rendu. Le Parlement nomma des commissaires pour le faire imprimer sous leurs yeux. On tira de cet arrêt 10 000 exemplaires dont la distribution fut organisée en un moment. Après quoi, comme il était dans les formes que le principal intéressé fut informé de ce que la cour avait fait de lui, ces mêmes commissaires se transportèrent à l'hôtel de M. le duc d'Aiguillon qui venait de descendre à Paris pour un rendez-vous impérieux. Ce rendez-vous n'était autre chose qu'une explication nette et franche devenue nécessaire entre le duc et son oncle, le maréchal. Grâce à Rafté, tout Versailles avait su en une heure la noble résistance du vieux duc aux ordres du roi touchant le portefeuille de M. de Choiseul. Grâce à Versailles, tout Paris et toute la France avaient appris la même nouvelle. en sorte que M. de Richelieu se trouvait depuis quelque temps hissé sur le pavois de la popularité, d'où il faisait des grimaces politiques à Madame du Barry et à son cher neveu lui-même. La position n'était pas bonne pour M. d'Aiguillon, déjà fort impopulaire. Le maréchal, si haï du peuple, mais redouté, parce qu'il était l'expression vivante de la noblesse, si respecté et si respectable sous Louis XV, le maréchal, si versatile, qu'après avoir choisi un parti, on le voyait tirer dessus sans ménagement, lorsque la circonstance le permettait ou qu'un bon mot pouvait en résulter. Richelieu, disons-nous, était un fâcheux ennemi à conserver. D'autant mieux que le pire côté de son inimitié était toujours celui qu'il réservait pour faire ce qu'il appelait des surprises. Le duc d'Aiguillon avait, depuis son entrevue avec Madame du Barry, deux défauts à la cuirasse. Devinant tout ce que Richelieu cachait de rancune et d'appétit de vengeance sous l'apparente égalité de son humeur, il fit ce qu'on doit faire en cas de tempête. Il creva la trombe à coups de canon, bien assuré que le péril serait moindre si on s'y jetait courageusement. Il se mit donc à rechercher partout son oncle pour avoir avec lui un entretien sérieux, mais rien n'était si difficile depuis que le maréchal avait éventé son désir. Marche et contre-marche commencèrent. Du plus loin que le maréchal voyait son neveu, il lui décochait un sourire et s'entourait immédiatement de gens qui rendaient toute communication impossible. Il défiait ainsi l'ennemi comme dans un fort impénétrable. Le duc d'Aiguillon creva la trombe. Il se présenta purement et simplement chez son oncle à Versailles. Mais Rafté, en faction à sa petite fenêtre de l'hôtel donnant sur la cour, reconnut les livrées du duc et prévint son maître. Le duc entra jusque dans la chambre à coucher du maréchal. Il y trouva Rafté, lequel, avec un sourire tout gros de confidence, commit l'indiscrétion de raconter à ce neveu que son oncle avait passé la nuit hors de l'hôtel. Monsieur d'Aiguillon se pinça les lèvres et fit bonne retraite. Rentré chez lui, il écrivit au maréchal pour lui demander audience. Le maréchal ne pouvait reculer devant une réponse. Il ne pouvait, s'il répondait, refuser l'audience, et s'il accordait l'audience, comment refuser une bonne explication? Monsieur d'Aiguillon ressemblait trop à ces spadassins polis et charmants qui cachent leurs mauvais desseins sous une gracieuseté adorable, amènent leur homme avec des révérences sur le terrain et là les gorgent sans miséricorde. Le maréchal n'avait pas assez d'amour-propre pour se faire une illusion, il savait toute la force de son neveu. Une fois en face de lui, cet antagoniste lui arracherait soit pardon, soit une concession. Or, Richelieu ne pardonnait jamais, et des concessions à un ennemi sont toujours une faute mortelle en politique. Il feignit donc, au reçu de la lettre de M. d'Aiguillon, d'avoir quitté Paris pour plusieurs jours. Rafté, qu'il consulta sur ce point, lui donna l'avis suivant. « Nous sommes en chemin de ruiner, monsieur d'Aiguillon. Nos amis des parlements font la besogne. Si monsieur d'Aiguillon, qui sans doute peut avant l'explosion mettre la main sur vous, il vous arrachera une promesse de le servir en cas de malheur, car votre ressentiment est de ceux que vous ne pouvez hautement faire passer avant un intérêt de famille. Si vous refusez, au contraire, M. d'Aiguillon s'en va en vous nommant son ennemi, en vous attribuant le mal, et il s'en va soulagé, comme on l'est toujours chaque fois qu'on a trouvé la cause du mal, bien que le mal ne soit pas guéri. « C'est parfaitement juste, répliqua Richelieu, mais je ne puis me sceller éternellement. Combien de jours avant l'explosion ? » ?»« 6 jours, monseigneur. » »« C'est sûr ?» Rafté tira de sa poche une lettre d'un conseiller au Parlement. Cette lettre contenait seulement les deux lignes que voici. Il a été décidé que l'arrêt serait rendu, il le sera jeudi, dernier délai fixé par la compagnie. « Alors, rien de plus simple, répliqua le maréchal, renvoie au duc sa lettre avec un billet de ta main. Monsieur le duc, vous aurez appris le départ de monsieur le maréchal pour... Ce changement d'air a été jugé indispensable par le médecin de monsieur le maréchal qu'il trouve un peu fatigué. Si, comme je le crois, d'après ce que vous avez fait l'honneur de me dire l'autre jour, vous désirez parler à monsieur le maréchal, je puis vous certifier que jeudi soir, monsieur le duc couchera, revenant de, en son hôtel à Paris. Vous l'y trouverez donc sans faute. Et maintenant, ajouta le maréchal, cache-moi quelque part jusqu'à jeudi. Rafté suivit ponctuellement ses instructions, le billet fut écrit et envoyé, la cachette fut trouvée. Seulement monsieur le duc de Richelieu, qui s'ennuyait fort, sortit un soir pour aller à Trianon parler à Nicole. Il ne risquait rien, ou croyait ne rien risquer, sachant monsieur le duc d'Aiguillon au pavillon de Lucienne. Il résulta de cette manœuvre que si monsieur d'Aiguillon se douta de quelque chose, il ne put du moins prévenir le coup dont il était menacé, faute de rencontrer l'épée de son ennemi. Le délai de jeudi le satisfit, il partit ce jour-là de Versailles avec l'espoir de rencontrer enfin et de combattre cet antagoniste impalpable. C'était, nous l'avons dit, le jour où le Parlement venait de rendre son arrêt. Une fermentation sourde encore, mais parfaitement intelligible pour le Parisien qui connaît si bien le niveau de ces ondes, régnait dans les rues que traversa le carrosse de monsieur d'Aiguillon. On ne fit pas attention à lui, car il avait eu la précaution de voyager dans une voiture sans armes, avec de grisons, comme s'il allait en bonne fortune. Il vit bien, çà et là, des gens affairés, qui se montraient un papier, le lisaient avec force gesticulation, et tourbillonnaient en groupe comme des fourmis autour d'une parcelle de sucre tombée à terre. Mais c'était le temps des agitations inoffensives. Le peuple se groupait ainsi pour une taxe sur les blés, pour un article de la Gazette de Hollande, pour un quatrain de Voltaire, ou pour une chanson contre Du Barry ou Monsieur de Maupeou. Monsieur d'Aiguillon toucha droit à l'hôtel de monsieur de Richelieu. Il n'y trouva que Rafté. Monsieur le maréchal, répondit celui-ci, était attendu d'un instant à l'autre. Un retard de poste le retenait sans doute aux barrières. Monsieur d'Aiguillon proposa d'attendre, tout en manifestant quelque mauvaise humeur à Rafté, car il prenait l'excuse pour une nouvelle défaite. Ce fut bien pis lorsque Rafté lui répondit que le maréchal serait au désespoir quand il rentrerait et qu'on eût fait attendre monsieur d'Aiguillon, que d'ailleurs il ne devait pas coucher à Paris, ainsi qu'il avait été convenu d'abord, que sans doute il ne reviendrait pas seul de la campagne et traverserait seulement Paris en prenant des nouvelles à son hôtel, que par conséquent monsieur d'Aiguillon ferait bien de retourner chez lui-même où le maréchal monterait en passant. « Écoutez, Rafté, » dit d'Aiguillon, qui s'était fort assombri durant cette réplique tout obscure, « vous êtes la conscience de mon oncle. Répondez-moi en honnête homme. On me joue, n'est-ce pas? Et monsieur le maréchal ne veut pas me voir. Ne m'interrompez pas, Rafté. Vous avez été pour moi souvent un bon conseil, et j'ai pu être pour vous, ce que je serai encore, un bon ami. Faut-il que je retourne à Versailles ?» Monsieur le duc, sur l'honneur, vous recevrez chez vous, avant une heure d'ici, la visite de monsieur le maréchal. Mais alors, autant que je l'attende ici, puisqu'il y viendra. J'ai eu l'honneur de vous dire qu'il n'y viendrait peut-être pas seul. Je comprends, j'ai votre parole, Rafté. À ces mots, le duc sortit tout rêveur, mais d'un air aussi noble et aussi gracieux que l'était peu la figure du maréchal lorsqu'il sortit d'un cabinet vitré après le départ de son neveu. Le maréchal souriait comme un de ces laids démons que Callot a semés dans ses tentations. « Il ne se doute de rien, Rafté. »« De rien, monseigneur. »« Quelle heure est-il ?» L'heure ne fait rien à la chose, monseigneur. Il faut attendre que notre petit procureur du Châtelet soit venu m'avertir. Les commissaires sont encore chez l'imprimeur. Rafté n'avait point achevé quand un valet de pied fit entrer par une porte secrète un personnage assez crasseux, assez laid, assez noir, une de ces plumes vivantes pour lesquelles M. Du Barry professait une si violente antipathie. Rafté poussa le maréchal dans le cabinet et s'avança, souriant, à la rencontre de cet homme. « Ah, c'est vous, maître Flageot, dit-il, enchanté de votre visite. Votre serviteur, monsieur de Rafté, eh bien, l'affaire est faite. C'est imprimé et tiré à 5000. Les premières épreuves courent déjà la ville, les autres sèchent. Quel malheur, mon cher Flageot, quel désespoir pour la famille de monsieur le maréchal. » Monsieur Flageot, pour se dispenser de répondre, c'est-à-dire de mentir, tira une large boîte d'argent où il puisa lentement une prise de tabac d'Espagne. Et ensuite, que fait-on ? Continua Rafté. La forme, cher monsieur de Rafté, messieurs les commissaires, sûrs du tirage et de la distribution, monteront immédiatement dans le carrosse qui les attend à la porte de l'imprimerie et s'en iront signifier l'arrêt à monsieur le duc d'Aiguillon, qui, justement, voyez le bonheur, c'est-à-dire le malheur, monsieur Rafté, se trouve en son hôtel à Paris, où l'on va pouvoir parler à sa personne. » Rafté fit un brusque mouvement pour atteindre sur un meuble un énorme sac de procédure qu'il remit à maître Flageot en lui disant « Voici les pièces dont je vous ai parlé, monsieur. Monsieur le maréchal a la plus grande confiance en vos lumières et vous abandonne cette affaire qui doit être avantageuse pour vous. Merci de vos bons offices dans le déplorable conflit de monsieur d'Aiguillon avec le tout-puissant Parlement de Paris. Merci de vos bons avis. » Et il poussa doucement, mais avec une certaine hâte, vers la porte de l'antichambre, maître Flageot, ravi du poids de son dossier. Aussitôt, délivrant le maréchal de sa prison, « Allons, monseigneur, dit-il, en voiture, vous n'avez pas de temps à perdre si vous voulez assister à la représentation. Sachez que vos chevaux marchent plus vite que ceux de messieurs les commissaires. » Les chevaux de monsieur de Richelieu marchaient plus vite que ceux de messieurs les commissaires, puisque le maréchal entra le premier dans la cour de l'hôtel d'Aiguillon. Le duc n'attendait plus son oncle et se préparait à repartir pour Lucienne afin d'annoncer à madame du Barry que l'ennemi s'était démasqué. Mais l'huissier, annonçant le maréchal, réveilla du fond de sa torpeur cet esprit découragé. Le duc courut au-devant de son oncle et lui prit les mains avec une affectation de tendresse mesurée à la peur qu'il avait eue. Le maréchal s'abandonna comme le duc. Le tableau fut touchant. On voyait cependant monsieur d'Aiguillon hâter le moment d'explication, tandis que le maréchal le reculait de son mieux en regardant soit un tableau, soit un bronze, soit une tapisserie, et en se plaignant d'une fatigue mortelle. Le duc coupa la retraite de son oncle, l'enferma dans un fauteuil comme monsieur de Villars avait enfermé le prince Eugène dans Marchienne, et pour attaque, « Mon oncle, lui dit-il, il est vrai que vous, l'homme le plus spirituel de France, vous m'avez jugé assez mal pour croire que je ne ferai pas de l'égoïsme à nous deux. » Il n'y avait plus à reculer. Richelieu prit son parti. « Que me dis-tu là ? » répliqua-t-il. « Et en quoi vois-tu que je t'ai bien ou mal jugé, mon cher ? Mon oncle, vous me boudez. Moi ? À quel propos ? Oh, pas de faux fuyant, monsieur le maréchal. Vous m'évitez lorsque j'ai besoin de vous, tout dire. D'honneur, je ne comprends pas. Je vais vous expliquer alors. Le roi n'a pas voulu vous nommer ministre, et comme j'ai accepté, moi, les chevaux légers, vous supposez que je vous ai abandonné, trahi. Cette chère comtesse qui vous porte dans son cœur... » Ici, Richelieu prêta l'oreille, mais ce ne fut pas seulement aux paroles de son neveu. « Tu me dis qu'elle me porte dans son cœur, cette chère comtesse ? » ajouta-t-il. « Et je le prouverai. » « Mon cher, je ne conteste pas. Je te fais venir pour pousser avec moi à la roue. Tu es plus jeune, par conséquent plus fort. Tu réussis, j'échoue, c'est dans l'ordre. Et par ma foi, je ne devine pas pourquoi tu prends tous ces scrupules. Si tu as agi dans mes intérêts, tu es 100 fois approuvé. Si tu as agi contre moi, eh bien, je te rendrai ta gourmade. Cela mérite-t-il qu'on s'explique ? Mon oncle, en vérité, tu es un enfant, duc, ta position est magnifique, pair de France, duc, commandant des chevaux légers, ministre dans 6 semaines, tu dois être au-dessus de toute cette futile mesquinerie, le succès absout, mon cher enfant. Suppose, j'aime les apologues, moi, suppose que nous soyons les 2 mulets de la fable, mais qu'est-ce que j'entends là ? « Rien, mon oncle, qui nuait. Si fait, j'entends un carrosse dans la cour. Mon oncle, ne vous interrompez pas, je vous prie. Votre conversation m'intéresse par-dessus toute chose. Moi aussi, j'aime les apologues. » Eh bien, mon cher, je voulais te dire que jamais, dans la prospérité, tu ne trouveras en face de toi le reproche et n'auras à craindre le dépit des envieux. Mais si tu cloches, si tu butes, ah, diable, prends garde, c'est à ce moment que le loup attaque. Mais vois-tu, je te disais bien, il y a du bruit dans ton antichambre. On vient sans doute t'apporter le portefeuille. La petite comtesse aura travaillé pour toi dans l'alcôve. L'huissier entra. Messieurs les commissaires du Parlement, dit-il avec inquiétude. Tiens, fit Richelieu, tu es commissaire du Parlement ici, que me veut-on? Répondit le duc, peu assuré par le sourire de son oncle. De par le roi, articula une voix sonore au bout de l'antichambre. Oh, s'écria Richelieu. Monsieur d'Aiguillon se leva tout pâle et vint au seuil du salon introduire lui-même les deux commissaires, derrière lesquels apparaissaient deux huissiers impassibles, et puis, à distance, une légion de valets épouvantés. « Que me veut-on ? » demanda le duc d'une voix émue. « C'est à monsieur le duc d'Aiguillon que nous avons l'honneur de parler, » dit l'un des commissaires. « Je suis le duc d'Aiguillon, oui, messieurs. » Aussitôt, le commissaire, saluant profondément, tira de sa ceinture un acte en bonne forme dont il donna lecture à haute et intelligible voix. C'était l'arrêt circonstancié, détaillé, complet, qui déclarait le duc d'Aiguillon gravement inculpé et prévenu de soupçons, même de faits qui entachaient son honneur, et le suspendait de ses fonctions de pair du royaume. Le duc entendit cette lecture comme un homme foudroyé entend le bruit du tonnerre. Il ne remua pas plus qu'une statue sur son piédestal et n'avança même pas la main pour prendre la copie de l'arrêt que lui offrait le commissaire du Parlement. Ce fut le maréchal qui, debout aussi, mais alerte et ingambe, prit ce papier, le lut et rendit le salut à messieurs les conseillers. Ceux-ci étaient déjà loin quand le duc d'Aiguillon demeurait encore dans la même stupeur. « Ah, voilà un rude coup !» dit Richelieu. « Tu n'es plus pair de France, c'est humiliant !» Le duc se retourna vers son oncle comme si, à ce moment seulement, il eût repris la vie et la pensée. « Tu ne t'y attendais pas ?» dit Richelieu du même ton. « Et vous, mon oncle ?» riposta d'Aiguillon. « Comment veux-tu qu'on aille se douter que le Parlement frappera si vertement sur le favori du roi et de la favorite? Ces gens-là se feront pulvériser !» Le duc s'assit, la main sur sa joue brûlante. « C'est que, continua le vieux maréchal enfonçant le poignard dans la plaie, si le Parlement te dégrade de la pairie pour la nomination au commandement des chevaux légers, il te décrétera de prise de corps et te condamnera au feu le jour où tu seras nommé ministre. Ces gens-là t'exègrent d'Aiguillon, méfie-toi d'eux. » Le duc soutint cet horrible persiflage avec une constance de héros. Son malheur le grandissait, il épurait son âme. Richelieu crut que cette constance était de l'insensibilité, de l'inintelligence peut-être, et que les piqûres n'avaient pas été assez profondes. « N'étant plus père, dit-il, tu seras moins exposé à la haine de ces Robins. Réfugie-toi dans quelques années d'obscurité. D'ailleurs, vois-tu, l'obscurité, ta sauvegarde, va te venir sans que tu le veuilles. Déchu de tes fonctions de père, tu arriveras au ministère plus difficilement. Cela te tirera d'affaire. Tandis que si tu veux lutter, mon ami, eh bien, tu as Madame du Barry pour toi. Elle te porte en son cœur et c'est un solide appui. » Monsieur d'Aiguillon se leva. Il ne rendit pas même au maréchal un regard de courroux pour toutes les souffrances que le vieillard venait de lui faire subir. « Vous avez raison, mon oncle, répondit-il tranquillement, et votre sagesse pèse dans ce dernier avis. Madame la comtesse du Barry, à laquelle vous avez eu la bonté de me présenter, et à qui vous avez dit de moi tant de bien et avec tant de véhémence que tout le monde en peut témoigner à Lucienne, Madame du Barry me défendra. Grâce à Dieu, elle-même, elle est brave et elle a tout pouvoir sur l'esprit de Sa Majesté. Merci, mon oncle, de votre conseil. Je m'y réfugie comme dans un port de salut. Mes chevaux, Bourguignon, à Lucienne !» Le maréchal resta au milieu d'un sourire ébauché. Monsieur d'Aiguillon salua respectueusement son oncle et quitta le salon, laissant le maréchal fort intrigué, par-dessus tout confus de l'acharnement qu'il avait mis à mordre cette chair noble et vive. Il y eut quelque consolation pour le vieux maréchal dans la joie folle des Parisiens lorsque le soir ils lurent les 10 000 exemplaires de l'arrêt qu'on s'arrachait dans les rues. Mais il ne put s'empêcher de soupirer quand Rafté lui demanda compte de sa soirée. Il la lui raconta cependant sans rien taire. « Le coup est donc paré ?» dit le secrétaire. « Oui et non, Rafté, mais la blessure n'est pas mortelle, et nous avons à Trianon quelque chose de mieux que je me reproche de n'avoir pas uniquement soigné. Nous avons couru 2 lièvres, Rafté. C'est une grande folie. » « Pourquoi, si l'on prend le bon ?» répliqua Rafté. « Mon cher, le bon, souviens-toi de cela, c'est toujours celui qu'on n'a pas pris, et pour celui-là qu'on n'a pas, on donnerait toujours l'autre, c'est-à-dire celui qu'on tient. » Rafté haussa les épaules, et cependant Monsieur de Richelieu n'avait pas tort. « Vous croyez, dit-il, que Monsieur d'Aiguillon sortira de là ? Crois-tu que le roi en sorte, Nigaud ? Oh, le roi fait un trou partout, mais il ne s'agit pas du roi, que je sache. Où le roi passera, passera Madame du Barry, qui tient de si près le roi, et par où Madame du Barry aura passé, d'Aiguillon passera aussi, lui qui... Bah, tu n'entends rien à la politique, Rafté. Monseigneur, ce n'est pas l'avis de Maître Flageot. Bon, que dit ce Maître Flageot? Et qu'est-ce que c'est d'abord? C'est un procureur, monseigneur. Après, tiens, monsieur Flageot prétend que le roi lui-même ne s'en tirera pas. Et qui donc fera obstacle au lion? Ma foi, monseigneur, ce sera le rat. Maître Flageot, alors? Il dit que oui. Et tu le crois? Je crois toujours un procureur qui promet de faire du mal. Nous verrons rafter les moyens de Maître Flageot. « C'est ce que je me dis, monseigneur. Allez, viens donc souper pour que je me couche. Cela m'a tout retourné de voir que mon pauvre neveu n'était plus pair de France et ne serait pas ministre. On est oncle, Rafté, ou on ne l'est pas. » Monsieur de Richelieu se mit à soupirer et ensuite se mit à rire. « Vous avez pourtant fait ce qu'il faut pour être ministre, » lui répliqua Rafté.